Là, vous avez déjà, il y a des chercheurs dans mon centre qui, avec des ingénieurs, bien entendu, pompent l'ensemble des décisions. Hein, ça fait des millions il y a quelques millions de décisions, mais c'est pas grand-chose, en fait. C'est pas tellement beaucoup pour, vu les capacités de calcul. Et cette numérisation et les outils, les informations qu'on va pouvoir tirer du traitement de ces données vont changer les choses, exactement comme, c'est une analogie bien connue, c'est pas pour autant qu'elle est fausse, on peut dire que c'est l'imprimerie qui a inventé la jurisprudence. Eh bien, de la même manière, puisqu'évidemment, avant, on n'a pas connaissance des décisions en dehors du tribunal ou d'une cour, on n'a pas connaissance dans les autres cours ou tribunaux des décisions qui sont prises. On n'a pas les recueils. Hein, c'est eux qui vont développer la jurisprudence comme source du droit. Eh bien, qu'est-ce que va amener le fait qu'on ait donc ces applications qui vont travailler sur l'ensemble des décisions de justice? Alors là, je vous donne mon avis, il est tout à fait contestable, bien entendu, j'aimerais qu'on en discute, mais ce sont comme des moteurs de recherche, mais qui vont compte, qui le fait que la décision, l'ensemble des décisions soient totalement numérisées, va permettre de trouver de nouveaux arguments que vous ne pouvez pas trouver par les moteurs de recherche actuels. Ça semble très abstrait, donc je vous donne un exemple. Cet exemple est purement hypothétique et je l'emprunte au droit du travail. Donc, la question se pose de savoir si, notamment dans le secteur de l'alimentation, un travailleur qui prend un produit en rayon et qui ne le paye pas à l'employeur commet une faute grave qui justifie son licenciement immédiat, sans indemnité, sans droit aux allocations de chômage, etc. Cette question est certainement examinée par les prud'hommes et par la chambre sociale de la Cour de cassation. Bon, que va permettre par rapport à ce qu'on a comme information actuellement, que pourrait fournir comme moyen neuf aux avocats ce type de traitement de données? Je donne un exemple. C'est vrai, monsieur le juge, que normalement, le vol par le travailleur constitue une faute grave. Néanmoins, lorsque la personne qui a volé, le travailleur qui a volé, est une femme isolée avec ses enfants et qu'elle a volé de la nourriture pour nourrir le bébé ou les enfants, eh bien, dans 80% des décisions qui ont été prises, la faute grave n'a pas été retenue. Hein, je reprends 80% puisque c'est le chiffre magique, hein, pour Pareto. Hein. Donc voilà. Pensez à ça. Les autres juges, voilà ce qu'ils décident. Et bien entendu, l'avocat de la partie adverse, qui travaillant pour les employeurs aura certainement également les moyens de s'acheter une très très bonne application, dira: oui, monsieur le juge, mais ici, la travailleuse en question ne travaillait pas chez Carrefour, elle travaillait dans une petite épicerie de quartier. Or, dans 80% des cas où des juges sont saisis de vols qui sont commis dans des petits magasins où tout le monde se connaît, ils ont retenu la faute grave, etc. Alors, on ne peut pas préjuger de la décision finale des juges, mais vous voyez là que par un phénomène tout à fait naturel qui nous est bien connu, et contrairement à toute cette distinction du syllogisme selon lequel le monde des faits, le monde du droit serait totalement impénétrable, sans quoi, si c'était vrai, il n'y aurait pas de jurisprudence, hein, eh bien, on va avoir effectivement des éléments qui sont pour le moment implicites et qui ne sont pas que vous ne pouvez pas trouver dans les moteurs de recherche actuels, qui vont être exhumés comme étant des moyens, moyens qui seront retenus ou pas par les juges et qui vont ainsi compléter les critères de la jurisprudence. Donc, voilà en quoi, en ne pensant pas à ces algorithmes comme des machines à calculer des décisions, mais bien comme des moyens de fournir de nouveaux arguments, eh bien, on n'arrive pas nécessairement à la même conclusion ou à ce que souhaitent les ingénieurs, c'est-à-dire que très loin de supprimer la discussion classique et la jurisprudence classique, on risque bien de l'enrichir. Deuxième point, le problème de la réduction du bruit, et ça c'est véritablement le point sur lequel je voudrais le plus insister, quitte à ne traiter que d'une phrase la troisième question, vu le temps qui est limité. C'est aussi le moyen qui va solliciter un tout petit peu plus de mathématiques, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire une présentation PowerPoint rester dans des éléments simples. Donc, le livre Noise a été publié par trois collègues d'Harvard, dont Daniel Kahneman, qui est un économiste, un psychologue au départ, mais qui a reçu le prix Nobel d'économie, Olivier Siboni, qui est un Français, qui enseigne à HEC Paris, mais aussi à Harvard, et Cass Sunstein, qui est assez connu. Et ils sont mis à trois pour développer l'idée de Kahneman, qui est une idée, en fait, c'est... Voilà une idée simple, mais qui a été méconnue depuis le début des temps et qu'on pourrait régler. Le problème des décisions, et évidemment le chapitre 1, le paradigme, c'est les décisions des juges, même s'ils prennent bien d'autres exemples. Le problème des décisions... c'est que les mauvaises décisions ne sont pas seulement dues à des biais. Vous voyez, c'est l'image C. Hein, donc, vous voyez une cible. On a bien touché juste dans l'image A. On a un tir groupé sur le centre de la cible. Alors que vous voyez bien que si on est biaisé, si la carabine a un problème ou que on est empêché par ses préjugés de voir les choses, on va se tromper, on va rater le centre de la cible, on va aller trop à gauche ou trop à droite. Et là, c'est le problème des biais. Hein, question sur laquelle c'est traduisé en droit discrimination hein, dans les applications algorithmiques. Mais, disent-ils, il y a un autre problème qui est différent des biais et qui est le bruit. Et le bruit, c'est quoi? C'est qu'on tire un peu dans tous les sens, si vous voulez, si vous me permettez l'expression. Et donc, on a une dispersion des décisions sans toucher la cible. Or, disent-ils, et ils prennent notamment des études statistiques qui ont été faites sur le tarif criminel qui n'est pas appliqué de la même manière, vous voyez ce cas simple, c'est-à-dire que pour le même délit, on peut être puni de manière très différente suivant l'état où on se trouve ou le juge auquel on fait face. Ce sont des questions qui ont été posées en France également, hein, des questions qui se posent partout. Alors, nous savons la plupart des questions juridiques sont beaucoup plus complexes que simplement l'application d'un chiffre. Bon, ce n'est pas tellement leur problème à eux, mais c'est notre problème à nous. Et eux, donc, l'idée, c'est comment va-t-on réduire ce bruit et font l'algorithmique juridique. Le grand idée de l'algorithmique juridique, c'est qu'on va, en fait, arrêter d'avoir du bruit et on va avoir toutes les décisions qui seront exactement cohérentes. On n'aura pas pour autant réglé la question des biais, mais en tous les cas, on aura une cohérence et disent-ils, c'est un argument fondamental de justice politique, c'est-à-dire qu'il faut traiter, on ne peut pas traiter les gens de manière différente, on ne peut pas, l'égalité devant la loi, c'est aussi l'égalité dans l'application de la loi, nous connaissons tous ces débats. Le problème de ce livre, c'est qu'il commet une erreur classique dans le positivisme qui a été